Bonjour, vous êtes bien sur Lilith, Martine et les autres. Et aujourd'hui, c'est une émission Femmes au volant. C'est la première d'une trilogie sur la bagnole. La première émission, c'est aujourd'hui Femmes au volant, le permis et la conduite.
La deuxième émission,
Road Movie, le 18 octobre.
Et la troisième émission de la trilogie, ce sera La mécanique, le 1er novembre. Donc pour rigoler un peu en début d'émission, on va vous passer un petit enregistrement un peu décalé qu'on a tiré du fabuleux site de l'INA qui regorge de trouvailles en tout genre. C'est parti.
Les choses qui sont sûres, c'est que femme au volant, mort au tournant.
Femme au volant. C'est la grosse caricature, la grosse cavalerie.
Qu'est-ce que tu penses de la suite du dicton hein? Femme dans le fossé, danger écarté.
Femme dans le fossé, danger écarté. Mais oui, effectivement, ouais. Effectivement.
Est-ce que vous pensez que les femmes ont une façon à elles de conduire?
Ah oui.
Laquelle?
Pas toujours très bonne.
Oui, mais par exemple?
Ah, ben ça, les femmes sont parfois irrégulières.
La femme au volant. Je peux vous en parler. Je viens justement de rencontrer une.
Mais qu'ont-elles donc fait pour mériter ça? Ce préjugé, ordinaire et tenace. C'est l'histoire d'une drôle de guerre, celle du partage du volant entre elle et lui.
Ça, c'est les femmes au volant. Tu sais bien, quand c'est elles conduisent bien. Hein? Alors qu'elles roulent vite des fois, et puis elles sont brusques aussi. Mais non, elles, c'est bien. Toi, quand tu prends le volant, oh, tu vas trop vite et tout. Mais le coup dernier, elles ne se rappelaient plus qu'elles faisaient la même chose.
Ouais, non. Mais, hein? Pour les statistiques, c'est les femmes qui ont le moins d'accidents. Hein.
Oui, ah oui.
Alors putain, qu'est-ce qu'elles en provoquent, hein, mon Dieu.
Bah, moi, la mienne, elle a tellement peur d'en provoquer que... Quand on prend l'autoroute, elle roule à 90. Bon, du coup, pour réduire mon budget vacances, je prends plus l'autoroute, même si le sens, ça sert à rien.
4 blondes dans une bagnole, qui est-ce qui conduit?
Qui conduit? La plus jeune.
Non, le mec
la
de
plus
la
vieille.
Le mec de la dépanneuse.
C'est con.
Au début, tout est simple. Quand l'automobile apparaît, le volant, c'est une affaire d'homme. Si aucune loi n'interdit aux femmes de conduire, leur place est évidemment à la maison. Ou à la rigueur, aux côtés du conducteur. En 1904, le journal L'Illustration affirme que les chauffeurs au féminin n'ont pas plus d'avenir que des femmes astronautes ou ingénieurs. Ces messieurs font de la voiture leur jouet favori. Un fabuleux moyen de déplacement, de prestige et de séduction. La fée automobile, une histoire d'amour passionnée, totale, entre le mâle dominant et la machine, symbole de sa virilité. Et les femmes? Les femmes, elles, sont considérées comme trop émotives ou trop distraites pour prendre le volant. Même si aucune étude ne prouve cette inaptitude, que chacun croit inhérente à leur nature féminine. Ce Ce n'est pas un hasard si les deux pionnières de la conduite en France sont des aristocrates fortunées, veuves et militantes du droit des femmes. Pas de mari pour les contrôler et leur rang social les protège. Une transgression impensable pour les citoyennes ordinaires. La première à obtenir son permis, c'est la duchesse d'Uzès en 1898, 5 ans après le premier homme. La première aussi a payé une amende pour excès de vitesse, 15 km/h au lieu de 12 dans les allées du bois de Boulogne.
Alors, vous venez d'écouter en fait un extrait du documentaire de Brigitte Chevet. Et donc voilà, c'était sur... Elle expliquait justement, c'est un documentaire qui s'appelle « Femmes au volant ». Et donc vous pouvez le retrouver sur le site de l'INA, et elle expliquait un peu justement par rapport aux stéréotypes et tout ça, c'est comme quand les gars au début commencent à parler, les différents stéréotypes en fait qu'il y a à ce niveau-là. Maintenant, justement, par rapport à la fin du documentaire, quand elle parlait un peu sur les différentes femmes et les premières femmes à avoir passé le permis de conduire, on va voir un peu l'historique un peu des premières femmes au volant.
Ouais, donc après avoir écouté ce fabuleux petit son de l'INA, et qui était plein de beaucoup de conneries, du coup maintenant on va dire que des choses intelligentes. Et donc voilà, donc comme on l'a écouté, la première femme qui a eu son permis, c'était une duchesse. Et c'est vrai qu'au début, en fait, de toute façon, pour l'ensemble de la population en France et dans le monde, bon, l'automobile, c'était réservé quand même à des gens qui avaient pas mal de pognon. Et c'était vrai aussi pour les femmes, sauf que, bon, en gros, il y avait 1% de femmes qui passaient le permis. Le code de la route, juste petite info, ça date de 1851. Et donc voilà. Donc au début, 1% de femmes, vraiment des grosses bourges, quoi, passent le permis. En 1925, ça c'est les premières statistiques qui sont disponibles, il y avait à Paris 4500 femmes qui ont passé leur permis dans l'année 1925 contre 50 000 hommes. Donc c'est encore... voilà, plutôt de l'ordre de un peu moins de 10%. Et dans les années 60, ça monte progressivement, surtout avec la démocratisation de l'automobile. Et dans les deux années 2000, et là, carrément, ça s'inverse. En fait, en 2000, il y a plus de femmes qui ont passé leur permis que d'hommes. Donc la différence, elle n'est pas non plus énorme. C'est 53% de femmes pour 47% d'hommes. Et cette proportion, elle s'est inversée en 2011. Bon, c'est pas non plus scandaleux, quoi. C'est 52% d'hommes qui passent leur permis en 2011 pour 48% de femmes. Donc, voilà pour l'historique. Ça, c'est la première partie de l'émission qui touche à sa fin. Et maintenant, on va écouter une petite chanson.
Anne Sylvestre, la reine du créneau.
Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff, je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Que simplement on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que ton, tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière, ah je vous jure, allez nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernaux, ils m'ont fait rater mon créneau. Toutes les automobilistes pourraient faire avec moi la liste des âneries que l'on entend quand on est au volant. J'ai donc appris à leur répondre et de manière à les confondre. Oui, ça consomme, mais moins qu'un mari, et c'est bien plus gentil. La conduite, je l'ai apprise, pas dans une pochette surprise. La voiture, elle est à moi, ni à Jules, ni à papa. Et quand le long d'un trottoir, je les voyais goguenards, je demandais sans un frisson, vous voulez une leçon pour conjurer la parano. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, elle t'a pas trop coûté, hein. garçons-là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille, c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, c'est pousse-toi de là que je déboîte. Maniaque de l'appel de phare, abuseur d'antibrouillard, ce chic qui rien ne distingue, le volant avec un flingue, avant que de les laisser nous jeter dans le fossé. Résistons à ces tyrannos, nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau.
Alors, vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres, et c'est une spéciale femme au volant. Et pour m'amuser, j'ai fait une petite recherche Google. J'ai tapé « femmes et voitures » dans Google et je vais vous lire les titres des sites et des articles sur lesquels je suis tombée. Alors, dossier « femmes et voitures » Terra Femina. Donc là, je me dis « ah ouais, femmes et voitures », peut-être ils vont faire un petit historique. D'ailleurs, si on lit le début, « véritable deuxième maison pour certaines, simple moyen de locomotion pour d'autres, la voiture a s'est gagnée au fil des années, ses lettres de noblesse auprès des femmes, blablabla ». Et en fait, je clique dessus et c'est que des histoires de marques de voitures qui plaisent aux femmes par rapport aux marques de voitures qui plaisent aux hommes. Deuxième site qui apparaît en lien sur Google, « société, la voiture change pour plaire aux femmes », psychologie.com. Troisième, « les 10 voitures qui font craquer les femmes », RTL Auto. Femmes et voitures, des clientes comme les autres, dans le nanana. Ensuite, alors si on a quand même un article sur conduire une voiture serait dangereux pour les ovaires des femmes d'après un cheikh saoudien, donc c'est quand même plutôt une critique. Et ensuite, femmes et voitures, ce que dit Auto Plus. Donc les voitures préférées des femmes sont la DS3 et la Mini. Ensuite, femmes belles et belles voitures sur YouTube. Une meuf avec des seins énormes en voiture by Viral Web 2K, 70,377 views. Auto au féminin, femme et voiture enfin réconciliées. Enquête, les femmes et les voitures. Donc là, pareil, c'est une enquête sur auféminin.com. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Et parfois, en fait, sur ce site, il y a quand même des trucs qui ne sont pas forcément inintéressants. Mais là, j'ai regardé tout l'article, c'est aussi sur les marques. En fait, c'est les femmes, un nouveau marché pour la vente de voitures. Et enfin, l'auto devient une affaire de femmes. C'est un dossier Ouest France. Donc, je peux vous en dire un peu plus. En matière de voitures et de grosses cylindrées, difficile d'échapper aux clichés. L'automobile est un milieu d'hommes, blablabla. Donc, on se dit, bon, ah ouais, c'est pas mal l'introduction. Après des décennies d'impérialisme masculin, les constructeurs s'intéressent enfin aux conductrices. Et là, les marques automobiles ont compris qu'un conducteur sur deux est une conductrice. Et là... Et bah, le 4x4 devient féminin, les attentes sont différentes parce que la vraie différence se situe dans la part d'émotion qu'elles mettent dans leur achat, qui doit être à la fois raisonnable, utilitaire, beau et si on peut, un brin original. Donc voilà, tout l'article repose aussi sur donc les femmes, elles ont besoin d'une voiture qui est soit rouge baiser, orange métal, bleu de Chine ou vanille irisée, contrairement aux hommes qui à 90% choisissent une voiture gris clair ou gris foncé par souci de conformisme. Les filles jouent la couleur et la personnalisation plus ou moins discrète. On aime le coffre pied de coq et de la future Kia Soul et l'effet bicolore comme au bon vieux temps de la deux chevaux Charleston. Donc voilà, c'était juste pour dire, c'est les deux premières pages que j'ai trouvées sur Google et j'ai trouvé quand même assez marrant parce qu'il n'y avait quasiment aucun article de fond sur vraiment, je sais pas, l'accès aux femmes à la voiture ou à la conduite. C'est que sur en fait les femmes, c'est un nouveau marché. Donc c'est quand même dans l'idée que les femmes elles conduisent plus, mais c'est que sous un angle capitaliste et les femmes comme part de marché. Et j'ai trouvé un autre article qui est assez déroutant aussi. C'est pourquoi les femmes ont-elles plus d'accidents de voiture que les hommes ? Alors on se dit bon, ok. Et après, si les femmes ont en moyenne plus d'accrochages en voiture que les hommes, ce n'est pas parce qu'elles conduisent mal, mais parce qu'elles se maquillent. En effet, selon une étude réalisée en Angleterre par la spécialiste du maquillage semi-permanent, Debra Robson est publiée par le journal britannique Daily Mail. 46% des femmes déclarent se maquiller au volant le matin en se rendant sur leur lieu de travail car elles se sont réveillées à la dernière minute. 43% admettent même le faire alors qu'elles ont conscience du danger. Donc voilà, pareil, je trouve ça assez rigolo que quand on parle de femmes qui se mettent en danger en voiture, on choisisse l'aspect maquillage. Voilà, c'est tout, c'était ma petite recherche Google du jour.
Bon, il faut quand même le dire, la bagnole, c'est dégueulasse, mais c'est quand même bien pratique. Alors c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, pour parler un petit peu de des nanas qui passent le permis, qui ont déjà leur permis, qui conduisent, pour un peu partager des appréhensions et en même temps se donner un peu de courage pour être les reines de la route
et les reines du créneau. Alors on va balancer un reportage, c'est ça ?
Ouais, on va le présenter.
Alors vas-y.
On va vous présenter un reportage d'Arte Radio. C'est une ancienne parisienne installée dans le 93, ex-parisienne installée dans le 93, Frédéric, qui décide enfin de passer son permis de conduire à 40 ans. 80 ans, non, 40 ans. Et elle en fait toute une histoire sociale. Et donc on va vous faire écouter ce petit reportage. En route.
Mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette.
Dixième leçon.
Et depuis quel temps elle avait fait quand je suis rentré des chemins environnants.
À
bicyclette.
Attends.
Ça va? Tu veux bien m'aider pour la voiture?
Oui. Ouais. Tu veux que je te la dépose ou c'est toi qui dois la mettre?
J'essaye et toi tu me regardes?
Oui, vas-y, allez-y.
Bonjour. Bon,
on dit rien.
C'est un moment très important, je vais déplacer ma voiture. Je vais reculer, c'est ça?
Tu vas faire en marche arrière.
Comme ça, là, le long de ce trottoir-là.
Oui, tu vas là-bas et après tu braques, tu viens ici. Ok.
Inch'Allah.
Voilà. Fais pas mort.
Attention, Malika.
Ah non.
Marche arrière. Ouais. Allez-y, lâche l'embrayage. Non, il est pas passé. Voilà, doucement, c'est bon. C'est bon, encore. Allez-y, encore. N'aie pas peur, hein. enlève, n'aie pas peur. C'est bon. À fond. Encore. Oui. Vas-y. Tourne. Voilà. C'est bon. Viens là. C'est bon. C'est bien. Faut pas paniquer, c'est bon.
Non, ça va. Mais j'ai pas l'habitude de cette voiture. Tu sais, à l'auto-école, c'est des voitures.
Ouais, c'est des voitures neuves, vite
neuf,
fait. Direction assistée. Ouais. Monte ta vitre. Ouf. La prochaine fois, tu vas le faire toute seule.
Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup. Ça m'a donné un peu chaud, mais. Ouais, ça avance un peu. Hein. Ouais. Ça y est, ça commence. Mm. C'est vrai? Je crois pas. Et pourquoi pas le faire maintenant?
Oui, j'espère que je vais faire maintenant. Ouais.
Dans mon auto-école, il y a une femme qui le passe là, elle a 57 ans.
Tu vois, 57. Moi, j'ai
57. Ouais, mais elle a la tête dure.
Ah, c'est ça, la tête dure. Toi, t'as la tête
dure. Moi, je lui dis,
ma mère,
il faut lui dire.
Mes surtout, ils ont les permis.
Ouais, ouais, mais ils l'ont fait jeune. Ils ont fait jeune.
Ben regarde, moi je suis pas jeune, je le fais 40 ans et c'est pas.
Oui,
c'est pas...
oui,
ans,
mais elle a la tête dure,
si,
elle
si,
mémorise pas.
Si, je vais
mais il faut pas lui dire ça, sinon elle va pas avoir le.
Attends déjà, prends le permis.
D'accord. Quand je l'ai, maintenant c'est toi qui commence. Ouais.
Après je vais garer ma voiture.
Ouais. Frédéric.
Allez, bonne journée.
Super, hein. Merci Abdel. Salut.
Quarante, ça fait.
Et dans notre tête à nous, il avait le permis. Et jusqu'au jour où il s'est fait arrêter une opération stop dans un rond-point, ils lui ont demandé les papiers du véhicule et son permis de conduire. Bah, l'autre, il n'avait pas de permis. 2 ans après.
On devrait conduire sans permis, nous. Au revoir, messieurs. Ben,
bien sûr, quand t'as pas le choix. Bah oui, quand t'en as pas le choix, mais t'en as beaucoup aujourd'hui. Et vous en retirez les vôtres aussi.
Non, moi je ne l'ai jamais passé.
Ah, non, on est en train de passer toutes les deux.
Première fois.
Moi, je l'ai passé en 96, le 26 février. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, j'ai tous mes points.
Bravo.
Pour faire comme moi, vous allez à l'étranger, vous le passez, il n'y a pas de points. Je suis allé au Portugal, j'ai rendu mon permis français, j'ai passé un permis portugais. En une semaine, vous avez tout, hein. Voiture, transport en commun, moto.
Ah, vous avez tout ça?
Tout ça. Et là-bas, ça s'achète les permis, ça se passe pas.
250 euros.
Ah bah c'est pour ça que vous avez tous vos points.
Bah, il n'y a pas de points. Bon, tu payes l'apéro, maman? Moi, je veux un baby limonade.
Maman, t'as 17
thunes. Je te jure, tu veux pas. Écoute, je veux bien. Un permis ou un truc comme ça.
Un permis. Là, j'étais dans l'autre et c'est 1,60€.
Bon, ben, alors à la réussite de. Donc, alors, on va plus te voir à l'auto-école. À celle-là, non, jamais. Je ne retourne pas. De toute manière, on est arrivé, il m'a dit comme ça. On est arrivé à un point avec vous où on ne peut plus rien faire. On vous a tout appris, alors. Après, il a essayé de rattraper le coup. Hein. Il m'a dit, bon, on va en parler avec les autres. J'ai dit, c'est même pas la peine. Je ne parle avec personne. J'arrête. Moi, ce que je leur reproche, c'est de nous casser. C'est vraiment une manière de nous casser, de démoraliser, de dire qu'on est des bons à rien. Par rapport à notre âge, on est des bons à rien. C'est-à-dire que le fait qu'on soit âgé, on devrait savoir. Eh bien, non. Même à vélo, moi, je sais pas conduire un vélo, ma pauvre. Comment veux-tu là ?
T'as jamais fait de vélo ?
Jamais. La dernière fois, il m'a dit, bah, le frein, c'est comme le vélo. Vous êtes déjà monté à vélo ? Je dis jamais. Je suis monté sur un âne, mais pas sur un vélo. L'âne, on n'a pas besoin de frein. On le pique et hop, il s'en va.
Ça t'a pas coupé
l'envie de le passer ? Non, du tout. Pour moi, c'est vital, à la limite. Et puis, j'arrive à un âge où je ne veux plus dépendre des autres, tu sais. Bon, j'ai envie d'aller voir une amie, comment je vais faire? Je vais dire à quelqu'un, dépose-moi. Et puis après, là-bas, je vais leur dire, redépose-moi. Donc, pour ça, déjà, pour être indépendante et pour mon commerce. Parce que pour faire mes courses, j'en ai besoin. Si j'ai la voiture, je fais les courses pendant 2-3 jours. Je suis tranquille, je mets ça au congélateur. Que là, tous les jours, je suis avec mes chambres. Regarde. J'ai été opérée 3 fois cette main.
À force de porter des charges et
à
tout ça.
À force de porter. Ah, 3 fois. Regarde un peu la main, comment elle est. Rien pour leur prouver que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas l'avoir, il faut l'avoir.
C'est vrai.
Bien pour partir. 58. Je m'en fous, je l'aurai pour ma retraite. Comme ça, je pourrais me balader.
Ça fait tellement moins, c'est incroyable, tu fais au moins 10 ans de moins.
Voilà, c'est gentil.
Alors c'est vrai, c'est cool.
Et le permis, je l'aurai, moi. Et toi aussi, hein. Toi aussi, on l'aura.
Je la voyais qu'elle regardait partout pour voir si c'est le voyage.
Vous prenez un petit verre?
Non, c'est gentil, mais faut que je rentre, là. C'est très gentil.
Bonne conduite.
Bon, je compte sur toi, alors
Nina, ouais,
j'y vais. De temps en temps, tu passes.
Ouais, bien sûr.
Et puis accroche-toi surtout.
Ouais.
Allez, rentrez bien.
Ouais. À bientôt. Salut.
À suivre sur arteradio.com.
écoutait Sexy Sushi, Princesse Voiture. On est toujours sur Lilith, Martine et les autres. C'est... On fait vachement bien la voiture. Hein.
Briteuse professionnelle. Donc maintenant, on va un peu parler de, des expériences de conduite de, des camarades présents en studio. Donc, pour les expériences de conduite et de, surtout d'apprentissage de la conduite, elles sont assez différentes selon qu'on ait grandi en ville ou à la campagne. Donc, les explications, elles sont assez simples. Personnellement, moi, j'ai grandi à la campagne et c'est vrai que on est assez dépendant de la voiture quand on habite en campagne et que les parents et tout l'entourage, il va pousser les ados à faire la conduite accompagnée ou au moins à passer son permis jeune pour être un peu indépendant au niveau des déplacements. Bon, alors les personnes qui habitent en ville, il y a nombreuses sont celles qui passent leur permis un peu sur le tard. Et pourquoi donc ?
Eh ben moi, j'ai grandi en ville. Non mais c'est vrai que donc moi j'ai toujours habité à Lyon depuis que je suis née, et c'est vrai que quand on grandit à Lyon, eh ben on n'a pas besoin parce qu'on se déplace toujours en vélo, à pied, en bus, en métro et tout ça. Et ça fait que pour ma part, alors je pense pas forcément que c'est le cas de tout le monde, mais pour ma part, ça a un peu fait grandir l'appréhension au fur et à mesure parce que comme je l'ai pas passé jeune et je suis en train de le passer là maintenant. Donc j'ai 28 ans et je suis en train de prendre mes leçons de conduite. Et bah ça fait que je me suis toujours dit, mais tain, ça a l'air trop dur d'avoir son permis, quoi. Ça a quand même fait un truc énorme dans ma tête vu que c'était un truc très loin pour moi. Et d'autre part, je prenais jamais la voiture, même avec mes parents ou ma famille, ou très peu, quoi. Vraiment que en vacances. Donc c'est un univers assez étranger pour moi, la voiture. Je pense du fait que j'ai grandi en ville, quoi, en grande partie.
Et t'avais quoi comme genre d'appréhension particulière à passer ton permis, par exemple ?
Ben, tout, quoi. Non, moi, j'avais peur. Donc, j'avais peur quand même de la voiture, du coup, vu que c'est pas du tout un monde qui est méconnu. Et j'avais peur vachement des moniteurs d'auto-école.
Les moniteurs d'auto-école, une race à part dans la population française. Alors, les moniteurs d'auto-école, tout le monde a un peu une expérience. Enfin, quiconque a passé son permis a une expérience là-dedans. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des remarques, mais moi, personnellement, j'ai changé d'auto-école parce que j'avais un moniteur qui, quand il voyait, par exemple, une femme voilée qui marchait au bord de la route, il me disait « Écrase-la, ça fera une arabe en moins.
»
Donc, non seulement il y avait ça, tu vois, des petites remarques plaisantes pendant les leçons de conduite, et en plus, bon, il n'était pas pédagogue, je pense, ni avec les mecs, ni avec les meufs, et en plus... il était jamais avare d'une remarque sexiste dès que je faisais une connerie. Donc en fait, avec lui en tout cas, j'ai loupé deux fois mon permis. Et j'étais dans un espèce de cercle vicieux des appréhensions qui sont normales, je pense, pour quelqu'un qui commence à conduire. Et de lui, il me décourageait. Donc j'arrivais pas du tout à prendre confiance en moi.
Et juste pour une petite remarque, c'est qu'en fait, je pense le truc, c'est que il y a pas plus de sexistes ou de racistes parmi les moniteurs d'auto-école que parmi tout le reste de la population, mais c'est plus qu'on y est confronté. En fait, du coup, c'est des gens à qui on choisit pas d'être confronté et on est obligé de faire avec, quoi. Alors que vous voyez ce que je veux dire, les racistes ou les sexistes dans plein d'autres milieux, si on veut les éviter, en fait, on les évite. Que là, on est coincé dans une voiture. Si le gars, il est comme ça ou la meuf, elle est comme ça, on est coincé avec dans la voiture.
Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se dire, tant pis, je change d'auto-école, parce que moi, j'ai plein de connaissances autour de moi, pareil, qui ont loupé deux, trois fois leur permis de conduire, et notamment parce qu'il y avait un problème de rapport de confiance et de pédagogie avec le moniteur, la monitrice d'ailleurs d'auto-école. Et ça, c'est très important, je pense, pour bien démarrer sa carrière de conductrice.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, l'espace quand même de la voiture, je trouve, c'est un espace qui est quand même intime.
Ouais.
Je trouve, c'est petit, t'es proche, et puis t'es dans le même bateau. Pour le coup, c'est une voiture, le bateau. Mais... Et du coup, c'est important quand même que la personne, on se sente un minimum à l'aise avec elle pour qu'elle nous apprenne à conduire comme il faut, sinon c'est la catastrophe.
Et du coup, ouais, par rapport à ça, c'est vraiment des trucs de pédagogie, mais c'est aussi que je pense que quand même, c'est vrai que dans le métier de moniteur d'auto-école, je sais pas s'il y a beaucoup de formations à comment tu formes vraiment les gens. Mais c'est vrai que moi, ce qui est rigolo, c'est que j'avais vraiment l'appréhension. Je me disais, en fait, si je suis avec quelqu'un qui me met pas en confiance, vu que j'ai déjà un peu peur, ça va être la catastrophe, quoi. Je vais vraiment perdre tous mes moyens. Et de fait, je suis dans une auto-école où les gens, ils sont assez cool, et je me rends compte que j'ai pas si peur que ça. Donc, comme quoi, les peurs, elles viennent vachement aussi de ce qu'on nous renvoie. Et c'est vrai que je trouve que quand t'es une femme, plus facilement, en tout cas, on va un peu se saisir de tes peurs pour te les renvoyer dans la gueule, quoi, en quelque sorte. C'est pas que t'en as forcément moins, plus que des mecs. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plein de mecs qui ont peur de conduire, mais ils sont peut-être moins sujets à ce qu'on leur renvoie tout le temps les trucs qu'ils savent pas faire ou les peurs qu'ils ont. Mmh. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la conduite, c'est... déjà, l'automobile, elle a une place quand même assez importante dans la société actuelle, quoi, moderne. C'est un truc énorme, quoi, la bagnole, au niveau économique, au niveau de l'espace, de tout. Et c'est vrai que c'est vraiment un truc viril par excellence, quoi. Genre, t'as une grosse bagnole, t'as une grosse queue, et genre, si t'as peur de conduire, t'es une fiotte, quoi. T'es pas bien, t'es... Et ça, c'est vrai que pour un homme, je pense que c'est un positionnement qui est induit par les jeux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors, on va expliquer, c'était hors studio.
Tu veux expliquer ?
C'était par exemple par rapport aux jeux que quand on joue quand on est petit, les jeux qui sont principalement chez les gars ou chez les meufs. Genre, je sais pas, quand on... les petits garçons, des trucs comme ça, genre ils ont souvent des petits tracteurs, ils kiffent trop les petits tracteurs ou les petites voitures, ils sont bien à balle et tout ça. Et donc c'est-à-dire les jeux en fait qu'on va leur donner, même si des fois par exemple ils disent mais c'est eux qui choisissent ces jeux-là. Ouais, bon, ils choisissent ces jeux-là, mais en même temps c'est quand même induit aussi dans ce truc de on leur donne aussi ces jeux-là. Et c'est vrai qu'il y a déjà un rapport déjà à tout ce qui est une voiture, c'est trop bien, l'enfant il va être trop à balle et tout ça, c'est trop cool et tout. Donc forcément, t'as déjà une première approche qui est différente. Alors qu'en tant que meuf, si imaginons, comme t'as grandi en ville, comme tu disais tout à l'heure, et que t'as jamais vu personne bricoler sur une voiture ou quoi que ce soit, en fait, ça te donnera quand même d'autres rapports. Ça te donnera quand même vraiment un autre rapport quand même à la voiture. Donc c'était un peu ce truc-là.
Au niveau des jeux, il faut pas aussi oublier tout ce qui est les jeux, la PlayStation, tous les jeux de voitures, ou même là, je sais pas si vous voyez les endroits où il y a plein de jeux et tu t'installes là dans cette espèce de siège. J'ai oublié le nom, mais et du coup le but c'est d'aller le plus vite possible. C'est vrai que, personnellement moi j'adorais.
Moi j'adorais ça aussi.
C'est pareil, c'est quand même des jeux qui sont plutôt, on va dire, c'est plutôt les ados mecs qui vont jouer à ça, quoi.
Donc c'est pareil, sur les passions. On disait, moi, c'est vrai que c'est fou, même dans des familles que je connais où les parents sont pas spécialement sexistes, où il n'y a pas spécialement une approche genrée des cadeaux qu'on donne et tout ça. Et même là, donc je pense que ça s'acquiert, après, on va pas faire une théorie du genre aujourd'hui, mais ça s'acquiert par plein d'autres espaces sociaux, mais les petits garçons, vers 8-9 ans, il y a vraiment la passion des transports, quoi. T'en as plein, ils vont te parler de train, de tram, et c'est vrai que j'entends plus rarement des petites filles qui ont ce genre de discours. Alors que de fait, en plus, les transports, c'est genre super intéressant. Donc, du coup, c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas cet accès-là, quoi.
Je pense que c'est vachement lié au fait aussi que dans les représentations, on a, puis même dans la réalité, quoi, on a les chauffeurs de bus, les pilotes d'avion, les routiers, les pilotes de Formule 1. C'est vrai que dans ce qu'on représente et dans ce qu'on... Ouais, dans la réalité, quoi, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont en position de conduire des engins.
Mais ouais, d'ailleurs, tout à l'heure, on avait vu en fait un bout de documentaire sur genre une meuf en fait qui était camionneuse dans les années 60. C'était hyper intéressant parce que genre c'était les deux premières, elles étaient dans un concours et tout ça, et c'était les deux premières, elles les expliquaient. Alors comment ça se passe votre vie, là, elle disait ça se passe plutôt bien, sauf que genre il y avait un truc entre guillemets genre normal et tout ça. C'était hyper intéressant parce que c'était dans les années 60 et c'était hyper bien. Et toi, tu parlais tout à l'heure que t'avais vu un documentaire aussi.
Ouais, aujourd'hui on va faire de la pub pour une autre radio sur France Culture, à l'émission Les Pieds sur Terre. Aujourd'hui, il y avait un reportage sur une dame de, si mon souvenir est bon, 55 ou 57 ans,
qui était camionneuse et qui du coup décrivait un petit peu sa vie et aussi rapport avec les camionneurs, le fait que ce soit une femme. Donc bah, n'hésitez pas, hein, c'est possible de l'écouter. Bon, il y a des choses plus intéressantes que d'autres, mais quand même c'est un témoignage d'une routière, quoi.
Et sinon, pour continuer sur les appréhensions, on a parlé hors antenne des appréhensions de faire des manœuvres et de gêner la circulation.
Ouais, bah moi je peux parler de ça parce que du coup moi j'ai l'impression, pour avoir vu plein de fois ma mère conduire, et où je voyais en fait que quand même les personnes ils vont plus facilement foutre la pression à des meufs, par exemple quand elles sont en train de faire une manœuvre, un créneau, parce que comme tout le monde part du principe que les femmes elles savent pas faire des créneaux, bah du coup on va bien regarder si elles savent faire des créneaux ou pas. Ça fait que pareil, un mec qui galère à faire des créneaux, on va moins le noter. Et d'avoir vu tellement de fois, même, parce que ma mère, c'est du coup quelqu'un, des fois, qui est en panique par rapport à ces trucs-là. Et du coup, moi, ça m'a vraiment imprégné de me dire, ah ouais, mais en fait, quand tu sais pas faire des manœuvres, tu gênes vraiment les autres. Et aussi, je trouve qu'en voiture, il y a vraiment ce truc de devoir s'imposer. Et que, quand même, souvent dans l'éducation, et bah, quand on t'apprend à moins t'imposer, ce qui est plus le cas, je pense, quand même, pour les femmes, qu'on leur apprend moins à s'imposer. Et bah, ça fait que dans la circulation, tu peux vite paniquer parce qu'en fait, ouais, à plein de moments, les gens vont pas te laisser passer. Ou oui, tu fais ta manœuvre, bah, tu fais ta manœuvre et alors? Et en fait, je trouve que quand tu l'assumes comme ça, j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux que quand t'es en panique par rapport au fait que les gens vont te faire des remontrances, quoi. Enfin, j'ai pas du coup vos expériences de gens qui conduisent, vu que moi, je conduis que à l'auto-école.
Ah oui, c'est sûr, mais moi, je pense que toute meuf conduisrice, ça a dû arriver où il y a un moment, un mec qui s'arrête, qui pose et puis qui commence à te dire à quel moment il faut que tu tournes le volant. Et c'est vrai que c'est assez agressant parce que déjà, quand notamment si tu viens d'avoir ton permis, tu sais que tu ne maîtrises pas tout à fait. Et est-ce que l'appréhension, ça crée que tu te paralyses. Puis d'un coup, oui, tu ne sais plus faire. Alors que normalement, sans cette situation de stress, tu y arriverais en fait. Ça, je pense que c'est hyper important de se le rappeler que, en fait, on sait faire des fois, mais c'est que juste le stress, ça nous fait perdre nos moyens. Et il faut à un moment se dire, ouais, mais je le sais faire et se rassurer avec ça. Et persister, quoi. Pas rester bloqué là-dessus et dire, en fait, au début, personne ne sait faire des créneaux, de toute façon, correctement, parce que même si t'as eu ton permis du premier coup, en fait, c'est comme tout, c'est une question d'habitude, en fait, plus tu vas pratiquer, et voilà, faut pas s'arrêter à ces gens qui viennent... qui peuvent partir d'un bon sentiment, j'ai envie de dire. Des fois, ils pensent qu'ils font bien parce qu'ils vont venir t'aider, sauf que bah, peut-être ils ne se rendent pas compte, et... Ouais, derrière, il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Il faut continuer, pratiquer.
Bah, moi, par contre, une petite expérience, c'est quand je venais d'avoir mon permis, je me rappelle, j'avais une voiture qu'on m'avait prêtée qui n'avait pas de direction assistée. En fait, c'était un utilitaire, donc il y avait un rétro en moins, donc j'étais un peu déboussolée. Et il y a eu un moment où je devais la garer à la guillotière. Et je me suis dit, hop, oh, putain, comment je vais faire et tout, je vais jamais y arriver. Et justement, il y a des gens sur le trottoir qui m'ont dit, vas-y, braque, 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 contre-braque et tout. Et ça m'a vachement aidée. Et je me suis dit, bah, c'est chouette parce que, justement, moi, j'avais trouvé que c'était bienveillant et que, du coup, bah, les autres gens qui étaient derrière et qui attendaient que je me gare, ils allaient pas commencer à être agressifs parce qu'en fait, il y avait deux personnes avec moi qui m'aidaient à me garer. Donc j'avais trouvé ça vachement rassurant, quoi. Et par contre, moi j'ai des souvenirs mais horribles, quoi, de me garer dans des endroits en pente et de devoir reculer en pente et de caler et de, enfin, mais c'est horrible, quoi. T'as limite envie de te mettre à pleurer, puis surtout que je pense que tu sois un mec ou une meuf, enfin les automobilistes entre eux ils sont hyper agressifs, quoi. Je trouve moi ça m'a toujours fait halluciner à quel point les gens dès qu'ils montent dans une voiture, mais c'est des monstres, quoi, et que même moi maintenant je me mets à devenir comme
ça. Vous voyez pas, mais elle se transforme, elle devient toute verte.
C'est,
ouais,
affreux. C'est la jungle.
Mais c'est ça en fait ce que tu dis sur la bienveillance, mais c'est que tu sens, je trouve, quand t'es vraiment en galère et que les gens te filent un coup de main, ou tu sais, t'as à peine commencé ta manœuvre qui est pas si difficile, ça. Et t'as le mec qui croit que t'es vraiment, tu vas pas y arriver, quoi. Mmh. Et genre, t'as vraiment besoin d'un homme pour te secourir. C'est toujours les situations comme ça.
Ouais.
Je trouve que c'est comme quand tu portes quelque chose de lourd, mais juste t'y arrives très bien toute seule et ça va, quoi. Et que ton voilà ton secours parce que t'es une meuf, ou juste tu portes quelque chose de lourd et c'est vraiment la galère et on t'aide. Et si t'étais un mec, on t'aiderait pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Alors t'es en train c'est de pas porter deux paquets de PQ et tout le monde se précipite pour t'aider.
C'est ça.
Par contre, quand t'es en train de porter acheté une machine à laver. Plus personne. Bon, on va peut-être écouter que... un petit morceau de musique d'Érythrée pour clore donc sur le chapitre des appréhensions. Et ensuite, nous parlerons du
plaisir.
Surmonter ses peurs, dépasser ses peurs.
Allez, c'est parti.
Thank you.
Alors, on vient d'écouter Tseaitu Beraki.
Donc, c'est une chanteuse qui vient d'Érythrée et qui est assez âgée, et elle est exilée en Hollande actuellement. Et c'est là qu'elle a enregistré ce CD. Donc, en fait, c'est une musicienne et chanteuse ultra connue en Érythrée qui a combattu dans la guérilla. Enfin, je connais pas bien l'histoire d'Érythrée, mais en tout cas, elle est assez engagée politiquement. Et donc, elle écrit elle-même ses chansons, elle compose la musique. Et là, la musique qu'on vient d'écouter, bon, normalement, elle fait des chansons qui durent 8 minutes, 9 minutes. Mais là, on n'a pas tout passé. Et en fait, c'est elle qui joue de tous les instruments et qui chante. Et voilà. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter ces chansons, je vous conseille, c'est pas mal. Et sinon, on est toujours sur Lilith, Martine et les autres. Et c'est une émission Femmes au volant. Et on va finir cette séquence par raconter un peu comment on dépasse ses peurs. Donc on va commencer par notre amie qui est en train de passer son permis de conduire et qui se débrouille pas mal.
Mais ouais, mais c'est clair. Non mais moi donc je suis la fameuse personne qui avait super peur de passer mon permis, et comme j'ai trouvé une auto-école plutôt sympa, je me rends compte finalement que c'est cool aussi de conduire. Et pourtant, je vous assure, j'étais vraiment flippée. Donc, je lance ce message à toutes les personnes qui sont super flippées de passer leur permis, que même une grosse trouillarde comme moi. Et comment j'ai fait ? Et bah, non, mais en fait, je trouve que ce qui est assez agréable dans la conduite, c'est aussi que tu te rends compte de tout ce que tu sais faire super vite, quoi. C'est ça dont je me suis rendu compte, où je me disais, ah, mais quand même, au bout de la troisième, quatrième leçon, j'ai quand même compris un peu les vitesses, les pédales, nanan. Je sais pas forcément tout le temps le faire, mais en tout cas, alors que ça me paraissait un monde super complexe. Et ben là, ça me semble vachement plus appréhendable. Et après, il y a aussi le côté de mieux connaître la voiture. Je trouve que ça aide vachement à des... parce que de se rendre compte que bah voilà, c'est un engin mécanique. En fait, c'est bien de connaître un peu comment ça fonctionne, parce que ça te paraît moins un truc de fou. En fait, c'est comme toutes les machines, quoi. Une fois que tu connais un peu le fonctionnement. Et du coup, voilà, moi je trouve que c'était des trucs qui m'ont bien aidé à. Après, j'ai pas du tout mon permis pour l'instant, mais en tout cas, je me dis pas que c'est. Je vais jamais l'avoir, quoi.
Mais tu vas l'avoir du premier coup.
Mais ouais.
Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, une autre expérience, peut-être ?
Bah oui, moi je dirais que c'est le plaisir de conduire, moi, qui m'a vraiment permis d'avoir, d'avoir très vite la pratique. Pareil, j'ai eu mon permis du premier coup. Et c'est vrai que mon état là-dedans, il a été super fort, parce qu'assez vite, il m'a dit mais quand même, t'as l'air de prendre. Parce que je flippais hein, aussi pendant mes heures de conduite, mais il disait quand même, t'as l'air de vachement aimer conduire. Et en effet, j'aimais ça, quoi. Et je pense que le fait de prendre du plaisir, de se projeter dans le plaisir, enfin, je sais pas, d'essayer de se dire que ça va être un moment aussi agréable d'apprentissage, enfin, je sais pas, je pense que ça peut être pas mal. Et puis je me disais, là, en réfléchissant là, pendant l'émission, je me disais, ah, et puis peut-être, je sais pas, peut-être à faire justement des jeux vidéo de vitesse où, en fait, si on se crache la gueule, c'est pas grave, et d'essayer d'aller le plus vite possible. Et peut-être, voilà, aussi passer par un mode un peu virtuel pour appréhender, je sais pas, peut-être que ça pourrait aider certaines. Mais ouais, voilà, moi, c'est vrai que le plaisir, c'est le maître mot.
Bah, alors, pour rassurer peut-être des personnes qui viennent d'avoir leur permis en ayant beaucoup de mal, moi, j'ai passé mon permis, je l'ai eu du troisième coup, après bien 60 heures de conduite. Je me suis ruinée, j'ai ruiné ma grand-mère, mes parents, enfin. C'était horrible. Et quand j'avais mon permis, même au début, j'étais vraiment très loin d'être à l'aise, en particulier sur la conduite en ville et sur le périph' et l'autoroute. Ça m'a mis longtemps d'être. De me sentir, quoi, de le faire. Et bon, moi, ce que je conseille aux gens qui ont un peu l'appréhension comme ça, même si vous avez déjà votre permis mais que vous ne vous sentez pas à l'aise, bah, n'hésitez pas, en fait, de demander à quelqu'un d'un peu calme, hein, pas quelqu'un de complètement flippé la vie, qui vous fasse angoisser encore plus que vous n'angoissez déjà. Quelqu'un un peu calme et rassurant qui monte avec vous en voiture, qui vous aide éventuellement. Bah, moi, c'était le périph' qui me faisait peur, enfin les contrôles, regarder ce que. Là, il y avait quelqu'un par exemple qui disait, moi je ne sais pas faire du vélo, donc ça me handicape, dans le reportage d'Arte Radio. Moi, au contraire, vu que je faisais beaucoup de vélo, en fait, j'étais hyper angoissée, parce que je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de visibilité dans une voiture et qu'on allait vraiment trop vite. Donc j'avais peur, quoi, de faire mes contrôles dans les miroirs. Et donc, voilà, au début, je prenais quelqu'un qui m'aidait à faire les contrôles et qui me confirmait ce que je voyais dans le miroir. Enfin, c'est un peu bête, mais j'avais pas confiance, en fait, dans ce truc de voir les trucs dans les rétros. Et bon, petit à petit, je m'y suis faite, je me suis désangoissée. Et maintenant, bon, ça va. Enfin, j'y pense même plus, quoi, de conduire sur le périph', sur l'autoroute. Ça me paraît anodin, alors qu'en plus, je conduis pas spécialement beaucoup. Mais je pense que déjà, accepter qu'on a un peu peur, de pas se refouler, de pas se culpabiliser aussi, d'avoir peur, de se dire « putain, je suis trop nulle, j'ai peur ». Ouais. C'est ça, c'est moi, du moment où je me suis dit bon, c'est pas grave, j'ai peur, je fais face à ma peur au lieu de me dire putain, mais je suis trop nulle d'avoir peur. Ouais. Ça a été un grand pas. Voilà,
oui, moi dans le même style, j'ai mon permis depuis pas longtemps et moi j'avais peur aussi, mais sur un truc plus de contrôle, de direction, tout ça. Et j'ai accepté le fait que, comme j'étais jeune conductrice, et ben j'avais le droit de me planter de route. Alors ça me fait faire des détours. Mais ça a fait que la conduite, elle est pas dangereuse, et que si je loupe la sortie, je prends celle d'après. Si je prends pas le bon croisement au bon moment, bah ce sera ensuite. Et en fait, c'est cool. Voilà.
Ah, c'est vrai qu'en plus, des fois, sur le périph ou sur l'autoroute, quand tu connais pas, tu t'y attends pas, ça va hyper vite, quoi. T'as vite fait, ouais, de planter, quoi.
C'est vrai qu'on en discutait en préparant l'émission, mais tu disais, Lucie, c'est aussi normal d'avoir peur en voiture, parce que du coup, on dit, ah, on a peur, mais en fait, la voiture, c'est quand même super dangereux. Du coup, ça serait même un peu malsain de jamais avoir peur en voiture. Mm. Tu te rends pas aussi compte de l'engin que t'as dans les mains, quand même. Du coup, c'est aussi de se dire ça, en fait.
Bah, par exemple, à la campagne, il y a beaucoup, énormément, et c'est un problème quasi sociétal, quoi. Il y a énormément de jeunes mecs qui se tuent en bagnole et qui tuent leurs 4 ou 5 potes embarqués avec eux. Et ça, c'est une catastrophe. Ouais. Des gens qui sont complètement inconscients du danger, qui conduisent bourrés, qui conduisent en ayant fumé je sais pas combien de spliffs. Et ça, c'est clair que voilà, c'est faut pas oublier que faut quand même faire attention en voiture.
Boire ou conduire, il faut choisir.
Sur ça, donc c'est bien, on dirait un clip de
la sécurité routière
du ministère de la Santé. On va quand même faire un petit point d'impôt. Non, t'avais un truc à dire.
Oui, j'avais juste un truc à rajouter. Que aussi, souvent, des fois, quand on passe notre permis, il y a déjà des potes ou des copines qui ont le permis et on n'ose pas se dire « Allez, moi aussi, je vais conduire ». Donc, on laisse plus facilement les gens qui ont déjà le permis. Et il ne faut pas, je pense, hésiter à dire « Allez, mais même sur une demi-heure, une heure, enfin pas forcément, parce que des fois sur des grands trajets, on dit, mais moi, parce qu'au début, conduire 4 heures d'un coup, c'est énorme, ça fatigue.
Il ne faut pas conduire 4 heures d'un coup. Il faut faire des pauses toutes les 2 heures.
C'est que Lily Martinez a été recrutée par le ministère de la Sécurité routière.
Non, mais en tout cas, je pense de dire, eh ben, ok, moi, en fait, ça me dit de prendre au moins pour une demi-heure et une heure le volant, et puis. Et voilà, quoi, pas laisser tout le temps ceux qui savent mieux faire et se dire « Allez, moi aussi, j'y vais ».
Car oui, s'il vous plaît, ne faites pas partie des nanas qui sont pas si nombreuses que ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup, des nanas qui passent leur permis et qui ensuite se disent toujours « Non, mais il y a quelqu'un qui sait mieux conduire que moi ouais. ». Et finalement, elles conduisent jamais. Elles se retrouvent, voilà, après 5-6 ans de permis, plus savoir te conduire.
Avec la méga trouille, quoi.
Avec la méga trouille, comme par exemple dans Au bout du compte, avec Agnès Jaoui. Ah, oui. Un film qui est sorti l'hiver dernier, et Agnès Jaoui, elle est complètement dans ce rôle-là, d'une nana qui a, je sais pas, 45-50 ans. En fait, elle avait passé son permis à une vingtaine d'années, puis après, elle s'était arrêtée de conduire et elle avait oublié, quoi. Mm.
Mais t'empiètes un peu sur le film, la nouvelle série de Lilith Martin et les autres, qui sera un road movie. Ah, c'est pas vraiment un road movie, mais c'est un film dans lequel il y a quelqu'un qui conduit, quoi. Bon, sans transition, les infos, parce qu'on a plus de temps, là. Alors, on voulait juste vous annoncer une conférence débat samedi 12 octobre, donc qui a lieu à la bibliothèque du 1er, et ça s'appelle Le dur chemin de l'égalité. Sont invités Feriel Lalami, Soumia Sali, Fatia Izem et Nadia Nahir. Donc rapidement, Feriel Lalami, c'est une politologue et sociologue d'origine algérienne. qui a publié notamment Les Algériennes contre le code de la famille. Soumia Sali, elle vit en Algérie, c'est une syndicaliste et une militante féministe. Fatia Izem, elle vit en Tunisie, elle est syndicaliste et c'est une militante politique pour la défense des droits des femmes. Et Nadia Nahir vit au Maroc et elle est militante féministe et membre du comité exécutif de l'Union de l'Action Féministe et membre de la Commission Régionale des Droits Humains Tanger-Tétouan. Donc voilà, ça se passe à la bibliothèque du premier le 12 octobre à 16h. Et on n'a plus le temps de vous parler de notre autre actualité, donc tant pis.
Tant pis. Mais rendez-vous la semaine prochaine pour une émission de On n'est pas des cadeaux. Et dans deux semaines, notre émission sur les road movies. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Et on laisse la place
à Dancehall Social Club.
Bonne soirée.
Au revoir.